Voilà. Alors, pour cette première rencontre de cette série de rencontres pour réfléchir aux bases théologiques de notre foi chrétienne, on va parler de la révélation. Juste une petite note explicative quant au titre, le bon dépôt, parce que quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi le bon dépôt? C'est quoi d'où vient ce titre? Alors, en fait, ce titre vient d'un verset qui est dans la première épître de Paul à Timothée. Non, pardon, c'est la deuxième épître de Paul à Timothée. Premier chapitre, versets 13 et 14, je vous les lis en introduction. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc le bon dépôt pour Paul, c'est ce qu'il a déposé, ce qu'il a transmis à Timothée pour que Timothée à son tour le transmette dans le cadre de son ministère et ainsi de suite. Le bon dépôt, c'est donc la substance, si vous voulez, de notre foi, de la foi chrétienne. Alors aujourd'hui, on va parler du thème de la révélation. Vous allez pouvoir suivre grâce au plan que j'ai distribué. On vit à une époque où les informations qui nous sont disponibles, c'est pas ce qui manque. Avec Internet, avec la radio, avec la télé, avec les journaux, on vit à l'âge de l'information. Hein, on veut savoir quelque chose, on a une question, on va sur Internet, on tape dans Google la question qu'on a, le sujet qui nous intéresse, et puis on se retrouve avec des millions de pages Internet, chacune contenant des milliers de mots, pour nous informer sur tous ces sujets. Et le sens même qu'on donne à notre vie est basé sur les informations auxquelles on croit, n'est-ce pas ? Depuis notre naissance, on est en train de recevoir et d'absorber des informations, que ce soit par nos parents, par l'école, par les médias, par les amis, par nos profs, et ainsi de suite. D'année en année, on accumule des informations, et celles qu'on retient et auxquelles on croit, ce sont celles qui vont ensuite orienter notre vie. C'est logique, non ? Mais le problème qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut juger de la fiabilité d'une information. Comment est-ce qu'on peut juger de la fiabilité d'une information? Comment est-ce qu'on peut juger si telle ou telle information, on peut compter dessus pour fonder nos choix, pour orienter notre vie, hein? Par exemple, on pourrait allumer la télé un jour et puis entendre que le fœtus humain ne peut pas être considéré comme une personne. Information. Comment est-ce que je peux juger de la fiabilité de cette information? Autre exemple. On pourrait lire dans un journal ou dans un livre qu'il est impossible qu'une personne morte revienne à la vie. Impossible qu'une personne morte revienne à la vie. Comment juger de la véracité de cette affirmation? Troisième exemple. À travers nos amis à l'école et notre éducation, on pourrait avoir retenu l'idée que le but de la vie est de prendre du plaisir tant que cela est possible. Le but de la vie est de prendre du plaisir tant que cela est possible. Ah bon? Intéressant comme information. Comment est-ce que je peux juger de la fiabilité de cette information? Eh bien, en théologie chrétienne, particulièrement réformée, on estime qu'il y a plusieurs sources d'informations fiables, plusieurs types de révélations, des choses qui nous viennent de l'extérieur. Révélations, c'est des choses qu'on invente, des informations qui nous viennent de l'extérieur. Et la première, enfin il y en a deux essentiellement, hein. La première, vous l'avez sur vos plans, c'est ce qu'on appelle la révélation générale. Ce qu'on appelle la révélation générale. Et la révélation générale, on va le voir, elle est utile, mais elle est insuffisante. Ok ? La révélation générale, est-ce qu'il y a plusieurs Bibles là ? Ouais. Alors, pour chaque partie, il y a une ou deux références bibliques, ça serait sympa de les lire, c'est jamais plus d'un verset ou deux maximum. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 19, verset 2, et quelqu'un d'autre, Romains 1, verset 20? Vas-y.
Mais tu racontes la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains.
Ok. C'est Romains 1, verset 20.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
Ok, oui, pardon. Merci, oui, je n'avais pas souligné. Ok, déjà, à partir de ces deux versets, mais il y en aurait d'autres sans doute, on peut déjà voir que l'observation de la nature permet de faire des affirmations vraies. L'observation de la nature permet de faire des affirmations vraies. Par exemple, on peut observer la nature et se rendre compte que si on a deux pommes et qu'on rajoute deux autres pommes, on en a quatre. C'est une affirmation vraie. 2 plus 2 égale 4. Hein, la base de la plupart de nos disciplines scientifiques, c'est l'observation de la nature. Et observer la nature permet déjà de faire des affirmations vraies. Toute vérité, où qu'on la trouve, appartient à Dieu. Puisqu'il est le créateur de cette nature que nous observons. Si on en tire des choses, des informations de l'observation de la nature, et qu'elles sont vraies, cette vérité appartient à Dieu. Il en est l'auteur. L'observation de la nature non seulement permet de faire des affirmations vraies, mais l'observation de la nature permet aussi de savoir des choses sur Dieu. Certaines choses sur Dieu. La première, c'est qu'il existe. C'est ce que Paul dit aux Romains. La divinité de Dieu est évidente dans ses œuvres autour de nous. La première chose qu'on peut savoir sur Dieu en observant la nature, c'est qu'il existe. On peut aussi savoir que Dieu est puissant. On considère la grandeur des montagnes, la puissance, l'énergie qui est contenue dans telle ou telle réaction chimique ou dans le soleil, on se rend compte que Dieu, l'auteur de cette nature, est puissant. On peut aussi constater et savoir en observant la nature que Dieu est sage, parce qu'il a ordonné sa création, il a ordonné la nature pour que ça marche, hein, pour que ça fonctionne. Il y a tout un ensemble de lois, et au fur et à mesure que la science progresse, on découvre de plus en plus combien l'univers est ordonné pour que ça marche. Il suffit de changer un petit détail, et puis les choses, ça marcherait plus, ce serait le chaos tout d'un coup. On se rend compte de plus en plus de cet ordre qui existe. On se rend compte également, en observant la nature, que Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qui nous paraît beau et agréable dans la nature. Et on se rend compte que Dieu est bon, il a créé des choses belles et des choses agréables. Il est l'inventeur du sens de l'esthétique, hein, Dieu. Donc on se rend compte de ces choses. L'observation de la nature permet de savoir des choses sur Dieu à tel point que ça rend inexcusable tous les gens qui ne cherchent pas Dieu. Parce qu'ils vivent dans ce cadre-là, qui permet de savoir des choses sur Dieu, mais s'ils ne cherchent pas Dieu, l'apôtre Paul dit qu'ils sont inexcusables. Donc vous voyez déjà, dans la révélation générale, dans l'observation de la nature, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'informations, à tel point que la Bible dit, si on ne cherche pas Dieu par conséquent, on est inexcusable. Mais l'observation de la nature n'est pas suffisante. Elle est utile, mais elle n'est pas suffisante pour savoir tout ce qu'il faut savoir. D'accord ? Par exemple, qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'un homme ? On observe la nature, on regarde l'homme au microscope et on découvre que l'homme, c'est un corps composé à 65% d'oxygène, 18% de carbone, 10% d'hydrogène, 3% d'azote, 1,8% de calcium, 1% de phosphore et le reste un mélange de potassium, de soufre, de sodium, de chlore, de magnésium, de fer et un certain nombre d'autres éléments chimiques. Ok ? Tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est une affirmation vraie. Ben, c'est vrai, on peut le déduire de l'observation de la nature. Et en même temps, ce n'est pas suffisant pour savoir ce que c'est que l'homme. Autre exemple, qu'est-ce que l'univers ? Qu'est-ce que l'univers ? Ben, on l'observe, on se rend compte que l'univers, c'est une quantité incroyable de matière et d'énergie. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour savoir ce que c'est que l'univers. La science, voyez-vous, a développé son langage, son propre langage, pour décrire le réel, pour décrire ce qui nous entoure. Les scientifiques observent le réel, observent la nature. Ils ont développé un langage, le langage des mathématiques, le langage de la physique, le langage de la chimie, pour nous décrire la nature qui est autour de nous. Et imaginez un instant que Dieu lui-même nous parle de la même chose. Est-ce qu'il utiliserait le même langage ? On peut se poser la question. Quel langage emploierait-il pour décrire ce que c'est que l'homme ? Pour nous expliquer ce que c'est que l'homme ? Ou pour nous expliquer ce que c'est que l'univers ? Voyez ? Les connaissances scientifiques, il faut aussi ajouter ce point, c'est que les connaissances scientifiques sont par nature limitées, puisqu'elles sont pas, c'est pas une connaissance divine, c'est pas une connaissance illimitée, c'est une connaissance humaine. Donc les connaissances scientifiques sont par nature limitées, et en plus, elles sont faillibles. L'histoire de la science nous le prouve. Le nombre de fois où il a fallu réviser ces théories, changer notre perception de l'univers et du monde et de l'homme, voilà, ces exemples suffisent à nous montrer que les connaissances scientifiques sont à la fois limitées et faillibles. La révélation générale, donc, utile mais insuffisante. Il y a un deuxième domaine qui appartient à cette catégorie de la révélation générale, c'est le domaine de la conscience humaine. Est-ce que quelqu'un peut lire Ecclésiaste 3, verset 11, ou bien le réciter par cœur, et Romains 2, verset 15. Ouais, c'est pas mal.
Ils ont mis dans leur cœur la
pensée de l'éternité, ouais, ouais.
Dieu a fait toute chose belle en son temps, il a mis dans son cœur la pensée de l'éternité.
Exactement, ouais. Ecclésiaste 3, verset 11.
Et ensuite,
pour le crème.
Enfin, qu'on puisse reconnaître le commencement, la fin, etc.
Donc là, je ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement, c'est pas ça.
Afin que, ou, moi j'ai bien que, enfin bref. En tout cas, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Quelqu'un a Romains 2, verset 15.
Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour.
Ok. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Paul parle des païens qui n'ont jamais été au courant, finalement, de la loi de Dieu, comme Israël l'a été. Et il dit que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse de les défendre tour à tour. La conscience de l'homme appartient à cette catégorie de la révélation générale, parce que tout homme à une conscience. Et dans la conscience de l'homme, il y a à la fois un sens moral. Qu'est-ce qu'on veut dire par sens moral? Par sens moral, on veut dire que tout homme a une notion selon laquelle il y a une différence entre le bien et le mal. La différence n'est pas toujours définie de la même façon, selon les cultures, les civilisations, selon les personnes, mais il y a au moins cette notion qu'il y a une distinction, il y a la notion du bien et du mal. Il y a un sens moral. L'homme ne répond pas uniquement à des instincts comme les animaux. Il y a un sens de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il y a un sens moral. D'accord ? Cette distinction existe dans l'esprit des hommes, même si elle est diversement définie. Il y a un autre sens chez l'homme, c'est le sens religieux. L'homme a l'intuition qu'il y a un Dieu unique. L'homme a l'intuition qu'il y a un Dieu unique. Il y a un livre très intéressant qui est sorti il y a quelques années, L'éternité dans leur cœur. C'est le titre de ce livre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, écrit par un certain Don Richardson. L'éternité dans leur cœur, c'est quelqu'un qui est parti du postulat que la religion, c'est une invention qui est venue avec le développement de la civilisation, tout ça, et les gens ont inventé, c'est une idée un peu marxiste, comme quoi la religion est venue un peu pour endormir les foules, voilà, ou pour se faire du bien, mais c'est venu avec le développement de la société. Et à partir de ce postulat, ils se sont dit, ces chercheurs, que s'ils arrivaient à aller examiner les conditions de vie des cultures les plus primitives possibles, les plus reculées possibles, à la fois dans le temps et géographiquement, donc dans la jungle amazonienne, par exemple, ou ailleurs, eh ben, ils se sont dit, ben, logiquement, on devrait voir que là, il n'y a pas du tout de sens du religieux ou l'idée qu'il y a un Dieu. Et finalement, leur recherche a démontré tout le contraire. Tout le contraire. Que dans les civilisations les plus primitives, il y avait, comme par intuition, l'idée d'un Dieu unique. Hein, soit un grand esprit, un Dieu suprême et unique, quoi. Et alors, ça a complètement pulvérisé leurs idées du départ. Et Don Richardson a écrit ce livre, par conséquent, L'éternité dans leur cœur, où il s'attache à plusieurs civilisations, comme les Mayas, enfin je ne sais pas qui, en Amérique du Sud, etc., pour montrer qu'en fait, même dans ces tribus-là, même dans ces civilisations-là, il y avait déjà un sens religieux et l'idée, l'intuition qu'il y avait un Dieu unique. Dieu a mis l'éternité dans leur cœur. Sens moral et sens religieux. Mais tout ça, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Hein. Révélation générale, utile, mais insuffisante. Pourquoi ? Parce que la raison humaine a ses limites. La raison humaine a ses limites, et là, on va évoquer un principe qui est très important à reconnaître, parce qu'il va à l'encontre de l'humanisme d'aujourd'hui, un humanisme séculier, où l'homme est la mesure de toute chose, et où l'homme, avec sa raison, ses capacités à raisonner et à réfléchir, est capable de tout expliquer et de parvenir à la vérité. Ben ça, c'est faux, selon la Bible. La raison humaine a ses limites. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 1, verset 21, et quelqu'un d'autre, 1 Corinthiens 2, verset 14.
Et a connu Dieu, et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leur pensée, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans la ténèbre.
Merci. Et 1 Corinthiens 2, verset 14.
L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les juge.
Merci. La première raison pour laquelle la raison humaine est limitée, ça, elle tient à la nature de l'homme. L'homme est une créature finie, une créature limitée, d'accord ? On n'est pas Dieu, on est inférieur. Et par nécessité, par conséquent, notre intelligence est limitée de toute manière. Hein. C'est comme la fourmi, son intelligence est limitée par rapport au petit garçon qui met les pieds dans la fourmilière. Quoi. La fourmi n'a pas la même analyse de ce qui se passe par rapport au petit garçon qui remue la fourmilière. De la même façon, il y a un décalage entre notre condition limitée, finie, et la condition de Dieu. Hein. Donc de toute façon, notre intelligence est limitée par nature, parce que nous sommes des créatures finies. Mais non seulement cela, mais en plus, notre intelligence est corrompue par notre état déchu. Elle est corrompue par le péché. Hein, la Bible explique qu'on ne vit pas dans le meilleur des mondes possibles. Hein. On vit dans un monde déchu, et le péché a touché jusqu'à notre intelligence, notre raison. Et c'est ce que dit Paul quand il dit là, hein, qu'ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Conséquence du péché. Hein? Et puis Paul explique également aux Corinthiens que l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme dans son état de péché, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu, des révélations, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc là, Paul, il soulève un problème. Il dit, nous, dans notre état naturel, dans notre état déchu, on est incapable même de recevoir la révélation de Dieu si Dieu voulait nous parler, parce que il nous parlerait par son Esprit, et nous, on est naturel dans nos péchés, et on ne peut pas juger spirituellement de ces choses-là, on ne peut pas les recevoir. Donc, la raison humaine est limitée, c'est pourquoi la révélation générale est utile, mais elle est insuffisante. Alors, il nous faut quelque chose d'autre. Je viens de dire que l'homme ne pouvait pas connaître Dieu de façon suffisante, uniquement à partir de l'observation de la nature, pour ces raisons qu'on a énumérées. Mais Dieu, lui, peut se faire connaître. Il peut, lui, prendre l'initiative de se faire connaître par des moyens qui soient accessibles. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle la révélation spéciale. D'accord ? La révélation générale, d'une part, utile mais insuffisante. La révélation spéciale, d'autre part, suffisante, mais pas exhaustive. D'accord ? Suffisante, mais pas exhaustive. On va voir pourquoi. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux 1, verset 1, et puis quelqu'un d'autre, 2 Pierre 1, verset 21.
Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à notre Père par les prophètes.
S'arrête là ton verset. Ben, lis le verset 2.
Le deuxième.
Oui, d'accord.
Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, qui sont les derniers il a établi héritier à toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait les mondes.
Merci. Juste une remarque sur ce verset. C'est assez extraordinaire ce qui est dit là. L'auteur dit, d'une part, Dieu nous a parlé autrefois, et maintenant Dieu nous a parlé encore. Juste ces trois mots, Dieu a parlé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une affirmation extraordinaire. 2 Pierre 1, verset 21.
Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Merci. Les chrétiens sont attachés à la Bible, n'est-ce pas? Ça a toujours été le cas. Depuis un siècle ou un siècle et demi, il y a eu des attaques de plus en plus virulentes contre les textes de l'Écriture sainte, contre la Bible, contre sa crédibilité, contre son historicité. Mais néanmoins, les chrétiens évangéliques sont attachés à la Bible. Je voudrais vous citer 5 raisons pour lesquelles la Bible est objectivement supérieure à tout autre document que nous avons à notre disposition. 5 raisons qui montrent la supériorité objective de la Bible. La première raison, c'est la distribution de la Bible. À quel point la Bible a été distribuée, diffusée dans le monde qui nous entoure. C'est le livre de loin, ok, qui a été le plus diffusé. C'est le livre qui a été le plus traduit. Saviez-vous que la Bible avait été traduite au moins en partie en plus de 2500 langues? Elle est accessible par plus de 95% de la population du monde dans leur langue maternelle. Donc c'est énorme. Il n'y a pas de document qui ressemble à ça. Donc unique par sa distribution, supérieure par sa distribution. La deuxième raison objective de la supériorité de la Bible, c'est son influence dans l'histoire, sur l'art, sur la culture, sur la civilisation, notamment occidentale. Mais l'influence de la Bible est sans égale par rapport à tout autre document qui soit à notre disposition. La troisième raison objective de la supériorité de la Bible, c'est sa conservation. La Bible a survécu de manière remarquable à l'épreuve du temps. Quand on considère que certains des écrits contenus dans la Bible datent de plus de 1000 ans avant Jésus, donc vous voyez, le deuxième millénaire avant la venue de Jésus, donc pour nous ça fait plus de 3000 ans. Okay? Quand on considère tous les efforts qu'il y a eu dans l'histoire pour discréditer ou faire disparaître la Bible, que l'on pense au régime communiste, par exemple, les dictatures communistes, que l'on pense également à la persécution contre les chrétiens, que ce soit sous les Romains ou plus récemment dans les pays islamistes, que l'on pense au rationalisme d'aujourd'hui, la philosophie des Lumières et ainsi de suite, tous ces efforts qui ont été faits pour discréditer, voire faire disparaître la Bible, c'est assez remarquable de voir à quel point la Bible a quand même été conservée et a survécu au fil du temps. Quatrième raison objective de la supériorité de la Bible sur tout autre document, c'est sa cohérence interne. Sa cohérence interne. On n'a pas besoin d'être croyant, il suffit d'être honnête, d'être de bonne foi, si j'ose dire, pour reconnaître dans la Bible une incroyable cohérence interne. La Bible, c'est quoi? C'est 66 livres différents, okay, écrit sur une période de 1500 ans, à peu près, entre les écrits les plus anciens et les écrits les moins anciens, par 40 auteurs différents, 40 auteurs différents. Tous ces auteurs étaient d'âge, de classe sociale, d'époque différentes. Ils ont écrit dans essentiellement 2 langues différentes, sauf pour quelques passages en araméen. Ils ont abordé une diversité de sujets dans des styles différents. Et quand je dis une diversité de sujets, c'est des sujets parfois très pointus, très délicats, comme tout ce qui est moralité, sexualité, éducation, bien sûr religion, et ainsi de suite. Enfin, ils ont abordé vraiment les sujets les plus chauds, hein, si j'ose dire, tous ces auteurs. Et malgré toute cette diversité, toute cet éventail d'auteurs d'époques différentes, on a une cohérence remarquable, incroyable. Moi, je vous mets au défi de trouver, je sais pas, trois auteurs d'un même pays, disons la France, ok, d'une même époque, disons le XVIIIe siècle, d'un même courant philosophique, disons les Lumières, sur un seul sujet, disons l'éducation. Et je vous mets au défi de trouver trois auteurs qui s'accordent entre eux. Mais la Bible, c'est 40 auteurs sur 1500 ans, et je ne vais pas me répéter, et malgré tout une cohérence remarquable. Donc ça, c'était la quatrième raison. Et la cinquième raison, qui montre la supériorité objective de la Bible, c'est non seulement sa cohérence interne, mais le contenu lui-même, la qualité du contenu. La Bible offre des ressources pour l'histoire incroyables, des ressources pour le travail des archéologues incroyables. Il y a une qualité littéraire dans ces écrits-là, que l'on pense aux écrits de sagesse, hein, comme les psaumes, comme les proverbes, comme l'Ecclésiaste, que l'on pense aux biographies de Jésus, que sont les évangiles, que l'on pense au livre de l'Apocalypse, qui est une espèce d'explosion littéraire, que l'on pense aussi à la franchise des récits qui nous sont faits. Quand on pense que la Bible a été écrite essentiellement, si on parle de l'Ancien Testament, par des Juifs pour des Juifs. Mais le tableau qui nous est peint des Juifs est un tableau très désobligeant. C'est un peuple qui n'arrête pas d'être rebelle, qui n'arrête pas de désobéir à Dieu, qui n'arrête pas de s'attirer sur lui-même les foudres de la sainte colère de Dieu, qui est finalement, c'est l'histoire d'un peuple qui finit dans un échec honteux, quoi, et qui se retrouve déporté à l'étranger, et ainsi de suite. Quelle franchise, si on avait imaginé que ces textes avaient été écrits pour flatter l'identité nationale, c'est pas ça qu'ils auraient écrit, hein. De la même façon dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est le fruit du ministère apostolique, donc des apôtres de Jésus. Et comment est-ce qu'ils nous sont dépeints, ces apôtres? Comme des lâches? Comme des gens qui ont renié Jésus? C'est incroyable, une telle franchise. Ce sont des signes de l'authenticité de ces textes. En tout cas, un contenu de grande qualité. Donc, la Bible, supérieure objectivement à tout autre document, de par sa distribution, de par son influence, de par sa conservation, de par sa cohérence interne, et de par son contenu. Rien que ça devrait mériter notre attention. Enfin, la Bible devrait mériter notre attention, ne serait-ce que pour ces raisons. Mais il y a d'autres raisons encore. D'autres raisons, et ces raisons tiennent à ce que la Bible prétend quand on commence à la lire. La Bible mérite notre attention parce qu'elle prétend avoir une portée universelle. Elle se présente elle-même, la Bible, comme étant un texte de référence universelle. Elle prétend rapporter les paroles de Dieu lui-même. Si vous lisiez la Bible à partir du début, vous arriveriez au troisième verset, et puis là, vous vous étoufferiez en lisant « Dieu dit, deux points, que la lumière soit ». Un livre qui rapporte les paroles de Dieu. Ça, c'est pas anodin. Elle prétend même, la Bible, être utile et efficace pour la connaissance de la vérité et pour le perfectionnement de l'homme. C'est incroyable. C'est incroyable ce que la Bible prétend concernant son contenu. Donc, même si on n'y croit pas, ne serait-ce que parce que la Bible prétend ces choses-là, elle devrait mériter notre attention, elle devrait retenir notre attention, n'est-ce pas? Si vous vouliez mener votre vie en ignorant la Bible, ce serait comme si vous vouliez préparer une thèse de doctorat, d'accord, sur un sujet bien particulier, et vous allez à la bibliothèque, et vous allez au rayon qui parle plus ou moins de votre sujet, vous parcourez les ouvrages, et puis là, au milieu du rayon, vous avez un gros bouquin, un peu plus gros que les autres, vous voyez. Et puis, ça traite précisément de votre sujet. Précisément. Un bouquin en 1500 pages qui dit, en couverture, qu'il va traiter de tout ce qui a rapport avec votre sujet. Mais vous ne le consultez pas. Vous consultez les autres, mais vous ne consultez pas celui-là. Ben, ça ressemble à ça, de mener sa vie sans consulter la Bible, sans s'intéresser à la Bible. Hein? C'est l'ouvrage, il se présente en tout cas comme l'ouvrage de référence. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a quand même intérêt à consulter le contenu. Hein? Alors, quelles sont les origines de la Bible qui montrent également que la Bible est un livre à part? Alors, vous aurez peut-être des questions là-dessus. Je ne suis pas un très grand spécialiste de la question, mais je vais vous livrer un peu les miettes que je pense savoir. Ce qu'on sait, c'est que les textes de l'Ancien Testament ont été transmis au peuple d'Israël au fur et à mesure de son histoire. Ce sont des révélations qui se succèdent dans l'histoire d'Israël, de la part de Dieu, que Dieu livre à son peuple, par le biais de prophètes. Et puis, au fur et à mesure que ces textes ont été transmis au peuple, il y a eu une catégorie de personnes parmi le peuple, qu'on a appelé les copistes, ou les scribes dans les évangiles, dont le travail a été de recopier ces textes soigneusement, afin de permettre leur préservation au fil du temps. Leur conservation au fil du temps. Et puis, vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, et pendant une période de quelques centaines d'années, on a entrepris de traduire ces textes, qui étaient tous en hébreu, de les traduire en grec. Et ça a donné lieu à une version de la Bible, une traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on a appelée la Septante, la traduction de la Septante. Et cette traduction, qui est apparue dans les derniers siècles avant Jésus-Christ, nous permet à nous de savoir quels étaient les livres... Quels étaient les écrits qui étaient considérés, enfin en tout cas ça nous donne des indices pour savoir quels étaient les livres qui étaient considérés comme étant importants par le peuple juif, et donc comme étant des textes de référence par le peuple juif. Mais le canon juif lui-même, ce n'est pas la Septante. Le canon, c'est-à-dire la liste officielle des livres qui font autorité pour le peuple juif, cette liste a été fixée seulement avec l'apparition des premiers chrétiens, parce que les juifs se sont retrouvés sous l'obligation de délimiter, parce qu'il y avait des nouveaux écrits, des écrits chrétiens qui apparaissaient, il a fallu qu'ils délimitent la liste officielle des livres qui faisaient autorité pour eux. Et donc là, on a eu le signe assez certain de ce qui constituait pour les juifs leur texte de référence, donc pour nous l'Ancien Testament. Et ils ont retenu 39 livres, les 39 livres que nous avons dans l'Ancien Testament, et ils étaient classés en trois parties. La Torah, qui équivaut aux cinq premiers livres de l'Ancien Testament, de Genèse à Deutéronome. Donc la Torah, c'est la première catégorie de livres. La deuxième catégorie, c'était les prophètes, qu'ils appelaient les prophètes. Et puis la troisième catégorie, les écrits. Et ça, c'est totalement cohérent quand on considère un passage dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 44. On va voir que Jésus lui-même se réfère à l'Ancien Testament en utilisant le même langage, en classant l'Ancien Testament en trois catégories de livres. Et il dit à ses disciples, Luc 24, verset 44, Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Vous voyez la classification en trois parties de l'Ancien Testament, qui équivaut à celles que les juifs ont retenues à la même époque. Donc on voit que Jésus aussi considère ces choses-là comme faisant autorité, comme étant le canon de l'Ancien Testament. Mais comme je le disais, pendant la période des apôtres, donc, qui a suivi la venue de Jésus et son œuvre, d'autres écrits ont commencé à apparaître, hein, des récits de la vie de Jésus, des lettres écrites par certains apôtres, à certains chrétiens, à certaines communautés chrétiennes. Et ces écrits, petit à petit, ont été diffusés, ont été reconnus par les chrétiens et par l'Église comme appartenant à la même catégorie que ces autres textes de l'Ancien Testament, la catégorie Écriture, avec un grand E. C'est l'Écriture sainte. Et à la fin du 4e siècle, pour la première fois, une liste de 27 livres du Nouveau Testament apparaît dans un concile. Et ça, c'est la confirmation historique que les églises reconnaissaient ces 27 livres comme étant comme appartenant à l'Écriture sainte. Vous voyez, c'est pas quelqu'un un jour qui a décidé arbitrairement ça, ça et ça, c'est bon, et ça, ça et ça, c'est pas bon. Les écrits du Nouveau Testament se sont imposés d'eux-mêmes par la providence de Dieu comme Écriture sainte. L'Église les a reconnus comme Écriture sainte. Et ces 27 livres ont été donc ajoutés aux 39 de l'Ancien Testament pour former le canon complet de la Bible. Ça, vous avez pu suivre plus ou moins ? La Bible est donc un livre à part, un livre à part. Mais, bien entendu, en tant que chrétien, on va plus loin que ça. La Bible, c'est pas juste un livre à part, c'est pas juste un super document, c'est pas juste un ouvrage qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu une fois dans sa vie. Pour les chrétiens, la Bible, c'est plus que ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que quelqu'un peut lire Exode, chapitre 24, verset 4, et quelqu'un d'autre, 2 Timothée 3, verset 16.
Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, il se leva pour de bon matin, il bâtit un autel sur le pied de la montagne, et dressa 12 pierres sur les 12 tribus d'Israël.
Merci. Et 2 Timothée 3, 16.
Toute écriture est inspirée de Dieu, utile, enseignée pour convaincre, pour redresser, éduquer dans la justice.
Merci. Donc, Exode 24, verset 4, c'est frappant, puisque ce qui nous est dit par rapport à ce que Moïse a fait, c'est qu'il a écrit, Moïse a écrit toutes les paroles de l'Éternel. Ce que Moïse a écrit, c'était pas son invention à lui, c'était pas un jour, il avait rien à faire, il s'est dit, je vais écrire un livre. Il a écrit les paroles de Dieu. Il a écrit les paroles de Dieu. L'Exode l'affirme, le livre de l'Exode l'affirme. Et puis, ce fameux verset dans Timothée qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on croit à l'inspiration de la Bible? Pourquoi est-ce que cette doctrine est tellement... D'abord, comment est-ce que cette doctrine est apparue? Comment est-ce que l'Église a pu affirmer une telle chose, que les textes de la Bible étaient inspirés de Dieu? Eh bien, voici comment l'Église a pu l'affirmer. Tout d'abord, la Bible est un document historique digne de confiance. Et ce document historique nous fait connaître la vie de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, le Seigneur des croyants, le Seigneur des chrétiens. Et en examinant ces documents historiques qui nous font connaître la vie de Jésus-Christ, on découvre que Jésus-Christ lui-même reconnaît l'autorité de l'Écriture. Vous voyez par exemple ce qui est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 24. Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Les interlocuteurs de Jésus, d'après Jésus, sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ou bien, Évangile de Jean, chapitre 10, verset 35. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Et ce qui est important à remarquer, c'est la petite parenthèse que fait Jésus ici, quand il dit, verset 35, « L'Écriture ne peut être abolie. » Jésus reconnaît, affirme l'autorité de l'Écriture. Ça se voit également dans ce fameux épisode où Jésus est tenté par le diable. Comment est-ce qu'il répond au diable en lui disant qu'il ne doit pas faire ce que le diable lui suggère de faire? Il dit non, je ne vais pas le faire parce que l'Écriture dit qu'il ne faut pas le faire. Jésus s'en remet à l'autorité de l'Écriture. Donc, la Bible est un document historique qui nous permet de connaître la vie de Jésus. Et en examinant la vie de Jésus, on découvre que Jésus reconnaît lui-même l'autorité de l'Écriture. Et l'Écriture dit d'elle-même qu'elle est inspirée de Dieu. D'accord ? Donc, si l'Église affirme que l'Écriture est inspirée de Dieu, c'est sur la base de l'autorité de l'Écriture elle-même, mais cette autorité est attestée par Jésus, le Fils de Dieu, le chef de l'Église, le Seigneur des croyants. Donc, ce n'est pas l'Église qui a inventé cette doctrine, c'est sur la base de l'autorité même du Fils de Dieu que nous pouvons l'affirmer. Et vous voyez de quelle façon l'Écriture dit d'elle-même qu'elle est inspirée de Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, Nombre, chapitre 12, verset 6, l'Éternel dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Dieu est en train de définir plus ou moins là le ministère des prophètes et par quelle autorité et quelle inspiration les prophètes vont parler dans l'histoire d'Israël. Parce que Dieu se sera fait connaître à eux. Mais on peut se tourner vers le Nouveau Testament pour voir plus clairement encore que la Bible est inspirée quand Paul dit à Timothée, le verset qu'on a lu il y a quelques instants, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture est inspirée de Dieu, littéralement. C'est pas inspiré, c'est expiré, dans le grec. Toute écriture est soufflée de la part de Dieu. C'est Dieu qui souffle l'écriture. Elle émane de son souffle, d'accord ? Donc, si on voulait traduire plus littéralement, on devrait mettre « expiré ». Dieu expire la parole, mais en même temps, cette parole, puisqu'elle a reçu le souffle de Dieu, elle est inspirée par Dieu. Et puis, si on se posait la question de savoir si ce texte s'appliquait seulement à l'Ancien Testament ou si ça implique aussi le Nouveau Testament, il y a deux raisons pour lesquelles on peut affirmer que Paul parle aussi du Nouveau Testament. La première, c'est que cette épître à Timothée, de Timothée, c'est une des épîtres les plus tardives, d'accord ? C'est un des textes les plus tardifs du Nouveau Testament. Et les textes comme évangéliques, par exemple, étaient déjà en circulation depuis plusieurs années, voire décennies. Et donc, étaient déjà reconnus, de fait, comme écriture sainte par les chrétiens. Et donc, quand Paul dit toute écriture, il se réfère probablement aussi à ces écrits-là de référence. Mais il y a encore un autre texte plus déterminant que celui-ci. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, où Pierre dit... considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait, donc Paul, dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Donc, vous voyez, Pierre fait référence aux épîtres pastorales de Paul. Donc, Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures. Pierre inclut les écrits de Paul dans cette catégorie-là, les Écritures. Vous voyez, on a tous les éléments nécessaires pour montrer que la Bible est inspirée depuis le livre de la Genèse, inspirée de Dieu, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. La préservation providentielle du texte. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, c'est un ensemble de textes qui ont été transmis à Israël au fil de son histoire, par le moyen de prophètes successifs. Ils ont été confiés au peuple de Dieu, pour ainsi dire, à l'Église, au fil du temps. C'est une révélation progressive, d'accord ? Une révélation progressive. C'est pas un livre qui est tombé du ciel à un moment donné. C'est une révélation progressive qui s'inscrit dans l'histoire du peuple de Dieu. Et dans cette histoire du peuple de Dieu, Dieu a agi selon sa providence pour donner ces textes à l'Église et pour qu'ils soient préservés et conservés au fil du temps. Regardons ce que Paul dit à ce sujet, Romains chapitre 3, verset 2. Il dit, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. C'est pour cette raison que nous reconnaissons comme livre canonique de l'Ancien Testament seulement ceux qui étaient reconnus comme tels par les Juifs. Vous voyez, Paul dit, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Romains 3, verset 2. 1 Timothée 3, 15 va un petit peu dans le même sens quand Paul dit de l'Église, il dit de l'Église que l'Église du Dieu que l'Église c'est la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dieu a confié sa révélation à son peuple, à l'Église, d'accord ? Et de façon providentielle, tout au long de l'histoire, Dieu a préservé l'authenticité de ces textes. Pourquoi il est important de reconnaître cette doctrine-là ? C'est important de le reconnaître parce que les textes originaux, nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas. Les textes les plus anciens, qui sont à notre disposition, qui sont à la disposition des historiens, ce sont des copies. Vous voyez l'importance du travail de cette catégorie de personnes qu'on a nommées les copistes ou les scribes depuis l'Ancien Testament, dont le travail était de recopier avec minutie les textes sacrés. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de copieuse, il n'y avait pas d'ordinateur et de disque dur, hein, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc si on voulait préserver ces textes, et si on croyait vraiment que c'était des textes sacrés, paroles de Dieu, il fallait les recopier et puis les recopier avec soin. Donc on a des textes, on a des manuscrits très anciens, mais ce ne sont pas les originaux. Mais parce que on peut croire que à la fois que le travail de ces copistes a été fait de façon très très soigneuse du fait qu'ils reconnaissaient le caractère sacré des textes qu'ils copiaient, mais d'autre part parce que Dieu a agi par sa providence pour préserver l'authenticité des textes, on peut se fier en toute confiance aux textes qui sont aujourd'hui nos textes bibliques, les textes de la Bible. Mais d'ailleurs, si nous pouvons le croire, c'est parce que Jésus l'a promis. Jésus l'a promis lorsqu'il a dit « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus est en train de parler de la loi, qui, quand il dit ça, il se réfère à l'Ancien Testament, il est en train de dire « Pas un seul trait de lettre ne passera. » Si Jésus l'a promis, c'est que Dieu est capable de le faire dans sa providence. Les textes que nous avons aujourd'hui et qui constituent notre Bible sont authentiques, ils sont fiables parce que Dieu les a préservés dans sa providence. L'autorité de la Bible. Pourquoi la Bible devrait-elle faire autorité ? Bon, parce qu'elle est parole de Dieu. Mais vous savez, la conviction de l'autorité divine du texte biblique ne vient en fin de compte que de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit portant témoignage dans nos cœurs. C'est comme ça que le dit la confession de foi de Westminster. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce texte qu'on a dit, quand Dieu parle, il parle spirituellement. Mais nous, on est déchus, on est des hommes naturels, comme dit l'apôtre. On a besoin de pouvoir juger de ces choses spirituellement. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de l'Esprit-Saint pour recevoir la conviction intérieure que les textes bibliques font autorité. D'où aussi l'importance de la prédication de Jonas ce matin, le rôle de l'esprit dans la vie chrétienne. D'accord ? La conviction de l'autorité divine du texte ne vient en fin de compte que de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit portant témoignage dans nos cœurs. Et cette œuvre, bien entendu, elle est conjointe à la foi chrétienne, la foi personnelle en Jésus-Christ. Par exemple, si vous veniez chez nous un jour, vous mettez au balcon de notre petite maison, vous avez un beau paysage des monts du Lyonnais devant vous. Si vous venez en fin de journée et qu'il fait beau, vous aurez un magnifique coucher de soleil, d'accord ? Superbe, parce qu'on est plein ouest là. Il y a les arbres, il y a les champs, il y a les vaches, ok ? Magnifique. Vous pourriez vous poser la question, mais d'où vient ce paysage ? D'où vient ce paysage ? Qu'est-ce que c'est que ce paysage ? Qu'est-ce que c'est que cette beauté ? Bon, si vous voulez le décrire en termes scientifiques, vous pourriez le faire. Vous pourriez prendre une photo éventuellement pour essayer de le reproduire. Vous pourriez dire, voilà ce qui se passe. En fait, t'as le soleil qui est en train de descendre, là, puis avec l'angle de machin, ça fait une couleur plutôt rouge. Les ombres s'allongent. Ça, c'est, vous pourriez expliquer tout ça en termes naturels, scientifiques. Mais la réponse de la Bible, finalement, est tout autre. Mais pourtant pas contradictoire, mais la Bible, par exemple, en parle différemment. Si vous vous posez la question de savoir d'où vient ce paysage, vous avez la réponse explicite de la Bible. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ben, ça, c'est une drôle de façon d'en parler. Mais voilà comment la Bible en parle. Mais cette compréhension-là du monde qui nous entoure, que tout cela vient de la parole de Dieu, que toutes ces choses-là ont été, ne proviennent pas de choses visibles, cette conviction-là, ce texte nous dit, c'est par la foi qu'on l'acquiert. C'est par la foi. C'est par la foi et la conviction intérieure que donne le Saint-Esprit. C'est spirituellement qu'on en juge. La Bible doit donc être crue. Ok, je sais que vous pensez à des jeux de mots, tout ça. Pas cuite, crue. Non, crue au sens de croire. La Bible doit donc être crue et obéie. Non, je suis seul à avoir ce genre de pensée, en fait. Moi, je dis, la Bible doit être crue. Ensuite, je me dis, oui, il ne faut pas la cuire, machin chouette. Mais en fait, je suis le seul, pardonnez-moi, voilà. Alors, si vous voyez. Bon, la Bible doit donc être crue et obéie. Elle est la référence infaillible pour comprendre le monde qui nous entoure, comprendre le sens du réel dans lequel on vit, pour savoir qui nous sommes, pour savoir qui est Dieu et ce que Dieu attend de nous. Un autre élément important, c'est que la Bible, concernant l'autorité de la Bible, c'est que si la Bible est l'autorité ultime, okay, parce qu'elle vient de Dieu, ça veut aussi dire que la Bible est la règle de sa propre interprétation. Puisqu'on ne peut pas imposer à la Bible une autre autorité que la sienne, puisque la sienne, c'est l'autorité ultime, vous voyez. Donc la Bible est la règle de sa propre interprétation. En théologie, on appelle ça le principe de l'analogie de la foi. Autrement dit, l'analogie de la foi, ça veut dire, par exemple, vous savez d'où vient ce terme? Ça vient d'un verset biblique, Romains 12, verset 6, où Paul utilise cette expression, et il dit « Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, en accord avec la foi, que ce soit analogue, à la foi. » Autrement dit, quelqu'un pourrait venir vers vous et vous dire « Voilà ce que Dieu m'a dit. » Et vous pourriez lui dire « Mais attends, est-ce que c'est analogue avec la foi? Est-ce que c'est en accord avec la foi ?» Autrement dit, est-ce que c'est en accord avec la révélation de Dieu qui fait autorité et qui est la Bible? Autrement dit encore, si vous tombez sur un passage difficile dans la Bible et vous avez du mal à le comprendre, la première chose à faire, c'est de consulter d'autres passages de la Bible qui sont plus clairs, qui sont plus faciles à comprendre, et qui peuvent vous orienter, et qui peuvent éventuellement exclure certaines interprétations. Alors non, ça c'est pas possible, parce que ce serait contradictoire avec des choses plus évidentes, plus claires dans le reste de la Bible. Donc la Bible, parce qu'elle fait autorité, elle est aussi la règle de sa propre interprétation. Je continue. La Bible dit vrai. Notre rapport à la Bible, étant donné tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, doit être de considérer qu'elle dit toujours vrai. Quand vous ouvrez la Bible et que vous allez l'étudier, dites-vous, la Bible dit vrai. La Bible dit vrai. Mais elle dit vrai de manière variée. Par exemple, imaginez que vous vouliez raconter à quelqu'un demain ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que moi je vous ai dit aujourd'hui. Vous pourriez le raconter de façon tout à fait vraie, sans qu'il y ait d'erreur dans votre rapport, et en même temps, ce ne serait pas mot pour mot ce que je vous aurais dit, n'est-ce pas? Vous seriez en train de dire vrai, à moins que vous ayez des problèmes de mémoire, etc. Imaginez encore que vous vouliez raconter à votre conjoint, par exemple, le rêve que vous avez fait pendant la nuit. C'est difficile de raconter un rêve, hein. Il n'en demeure pas moins qu'on essaye de le dire d'une façon vraie, enfin en étant fidèle à ce qu'on a vécu dans son rêve, n'est-ce pas? Mais c'est difficile. De la même façon, la Bible dit vrai dans des styles littéraires, des contextes et selon des personnalités d'auteurs différents. Et parfois, la Bible exprime de manière vraie des choses qui sont en réalité pratiquement inexprimables par le langage. Qu'on pense au livre de l'Apocalypse, par exemple, je pense que Jean, heureusement qu'il y avait le Saint-Esprit pour conduire sa plume, entre guillemets, parce qu'il aurait eu du mal, je pense, à raconter ce qu'il a vécu dans cette extase sur l'île de Patmos, hein, quand il a été ravi en esprit, qu'il a vu des choses. Voilà, même Paul dit qu'il a vu des choses qui est interdit à un homme d'exprimer, quoi. Donc, des fois, la Bible nous parle de choses qui sont normalement inexprimables. Donc, il faut reconnaître dans la Bible qu'il y a diversité de styles, de contextes et diversité de personnalités selon les auteurs. Vous savez, les gens qui attaquent la Bible ne l'attaquent pas sur ce qu'elle dit, mais sur sa crédibilité. Pourquoi ils ne l'attaquent pas sur ce qu'elle dit? Parce que ce que la Bible dit est assez évident, franchement. C'est assez évident. Mais si on veut réfuter ce que la Bible dit, on n'attaque pas sur ce qu'elle dit, on attaque sur sa crédibilité. C'est pour ça qu'il y a eu d'énormes efforts ces dernières décennies dans le domaine de ce qu'on appelle la critique textuelle pour démonter la crédibilité du texte biblique en disant « Mais non, mais ça remonte pas à Moïse, ça c'est des gens bien plus tard, bien des siècles plus tard qui ont prétendu écrire de la part de Moïse, qui ont récolté des sources diverses, des documents divers, de droite à gauche pour faire ce texte avec des intérêts politiques ou religieux, etc. » etc. Les gens n'attaquent pas ce que la Bible dit, ils attaquent sa crédibilité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a un problème de rapport à l'autorité. Je voudrais vous citer un exemple que quelqu'un m'a donné une fois et j'ai trouvé très pertinent. Quelle est la différence entre un chrétien libéral et un chrétien évangélique face à l'interdiction biblique, par exemple, des rapports sexuels en dehors du mariage? Ok? Bon, le libéral qui ne veut pas accepter cet enseignement, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, il va dire, mais le texte le dit, effectivement, mais le texte n'est pas crédible. Okay? Le texte le dit, mais le texte n'est pas crédible. Ben, que dit un évangélique qui a du mal à accepter cet enseignement? Il dit, le texte est crédible, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que le texte dit. Vous voyez? Et on va essayer de contourner. En fait, le chrétien authentique, n'est-ce pas, qui a cette dimension de la foi, qui a reçu l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, reconnaît qu'il doit renoncer à son autonomie. Autonomie, ça veut dire être une loi pour soi-même. Il doit renoncer à son autonomie et recevoir le règne de Jésus-Christ. Et donc, à partir de ce moment-là, l'autorité de la Bible, révélation spéciale, parole de Dieu, devient un présupposé pour notre vie chrétienne. Et ça, c'est très important, que l'autorité de la Bible devienne un présupposé, qu'on la lise en disant « La Bible dit vrai, et la Bible a autorité dans ma vie ». Vous connaissez peut-être le théologien James Packer. James Packer, il a écrit quelques livres qui ont été traduits en français. Et il utilise une illustration pour nous expliquer comment on devrait réagir quand on est face à des informations contradictoires vis-à-vis de la Bible. Si on reçoit une information de l'extérieur qui entre en contradiction avec une information biblique, il dit qu'il faut qu'on soit comme Moïse quand il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, ben il a tué l'Égyptien. Mais en revanche, quand on est face à une contradiction apparente entre deux informations qui sont, elles, bibliques, toutes les deux, il dit là, dans ce cas, il faut être comme Moïse, quand il a vu deux Hébreux en train de se battre. Il a essayé de les réconcilier. Vous voyez l'illustration? Si c'est on tue l'Égyptien, n'est-ce pas? Enfin, pas littéralement, ok? Mais quand c'est interne à la Bible, on essaye de réconcilier, comme sur la base du principe que je vous ai dit tout à l'heure. La Bible est la règle de sa propre interprétation. La Bible, enfin, est suffisante. Elle contient tout ce qui est nécessaire à notre salut, à notre foi et à notre vie. Rien ne doit être ni ajouté, ni retranché à la Bible, de la Bible. Ajouter A, retrancher 2. La Bible. La Bible forme un tout, okay, un tout, et c'est ça l'origine du mot le canon. Le canon, c'est le tout de la révélation. Elle forme un tout, mais elle n'est pas pour autant exhaustive. Ça veut dire que la Bible ne traite pas de tous les sujets imaginables. Pour ce qui n'est pas expressément enseigné dans la Bible, ce qui est sollicité, c'est la sagesse chrétienne qui s'exerce de façon si possible mature, avec l'aide des frères et sœurs, et ainsi de suite. c'est la sagesse chrétienne, évidemment fondée dans les principes bibliques, fondée dans ce qui est clair dans la Bible, qui doit ensuite orienter des questions qui ne sont pas explicitement traitées par l'Écriture, par exemple la forme du culte. Parfois la forme du culte dépend beaucoup de la culture dans laquelle on s'inscrit. Si on était en Afrique, on ne ferait pas la même chose qu'ici en Europe. Donc la forme du culte doit être déduite de la sagesse chrétienne et des principes généraux qui sont dans la Bible. Le choix de son conjoint, par exemple, la Bible ne dit pas « Jonas, tu vas épouser Amy ». Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qui Dieu veut qu'on épouse ? On en appelle à la sagesse chrétienne, la maturité peut-être de frères et sœurs qui ont plus d'expérience et ainsi de suite. On pèse le pour, le contre dans la prière et bien sûr en fonction de préceptes, de principes qui, quant à eux, sont clairs dans la Bible. Par exemple, Dieu ne nous laisse pas le choix de nous marier avec quelqu'un du même sexe. Okay ? Donc ça élimine une partie de la population. Mais en même temps, ça ne vous dit pas exactement qui vous devez épouser. Ok. D'autres questions qui ne sont pas traitées explicitement, par exemple des questions d'ordre éthique, qui sont des questions récentes, qui découlent des progrès de la science. Récemment, je me suis pas mal penché sur la question de la fertilisation in vitro. Fertilisation in vitro, ça veut dire quoi pour Moïse ou pour l'apôtre Paul ? Et il n'en a jamais entendu parler. La Bible ne donne pas de réponse explicite sur ces questions-là, et en même temps, elle nous donne toutes sortes de principes que nous devons respecter et reconnaître pour pouvoir se positionner ensuite par rapport à des questions plus précises d'ordre éthique. Par exemple, la Bible parle du statut de l'embryon. Le saviez-vous ? La Bible parle du statut de l'embryon. On reconnaît qu'un embryon humain a toute la dignité d'une personne humaine. Okay ? Donc ça doit orienter notre position en tant que chrétien sur des questions comme ça. Mais la Bible ne dit pas noir sur blanc, oui ou non sur toutes les questions imaginables. Il faut aussi ajouter que tout dans la Bible n'est pas aussi clair. Il y a des choses claires et évidentes et d'autres moins. Et de là, on tire la notion des doctrines essentielles et des doctrines secondaires. En tant que chrétien, nous croyons qu'il y a des doctrines essentielles, des doctrines fondamentales. Et puis, il y a des doctrines secondaires. C'est pour ça aussi qu'il y a des églises différentes, même au niveau de la théologie, sur des doctrines secondaires. Et ça n'empêche pas qu'on soit frères et sœurs en Christ, parce que nous reconnaissons les doctrines qui, quant à elles, sont évidentes. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que dans la Bible, le plus important à savoir est aussi le plus clair. Le plus important est aussi le plus clair. Et la Bible s'adresse à tous. La Bible ne demande pas qu'on soit particulièrement intelligent pour la comprendre. C'est ce que dit, par exemple, le psalmiste dans le psaume 119, verset 130. « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Vous voyez, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. En fait, la source de toute intelligence spirituelle, c'est la Bible. Et n'importe qui peut la lire et l'étudier. Un dernier point sur la révélation spéciale. On a beaucoup parlé de la Bible, mais Dieu ne s'est pas seulement révélé par écrit. Il ne s'est pas seulement révélé par écrit ou oralement, il s'est aussi révélé en personne, en Jésus-Christ. Quelqu'un pouvait lire Proverbe chapitre 8 verset 23. Et moi je dirais la deuxième référence. Vas-y.
J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement dans l'origine de la terre.
J'ai été établi dans l'éternité dès le commencement, c'est ça ?
Depuis
l'éternité, ouais.
Dès le commencement avant l'origine de la terre.
Ok. Ici, si vous regardiez le contexte de ce passage dans Proverbe chapitre 8, il s'agit de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est représentée dans ce passage comme une personne qui parle et qui dit d'elle-même des choses que le Nouveau Testament attribue à Jésus-Christ. Jean chapitre 1, versets 14 et 18, par exemple, même au début, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, etc. Et puis un peu plus loin, verset 14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Et là, de toute évidence, il parle de Jésus. « Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Vous voyez que Jésus est également révélation spéciale. C'est Dieu qui se fait connaître, mais cette fois en personne. C'est ce qu'on a lu aussi dans les premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Dieu a parlé de diverses manières autrefois à nos pères, mais maintenant il nous a parlé par le Fils. Connaître la Bible, donc, ce n'est pas suffisant pour connaître Dieu. Ce n'est pas suffisant pour comprendre le réel, pour comprendre notre vie, pour comprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Il faut aussi connaître Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vivre en Jésus, c'est vivre par l'Esprit qui nous illumine et qui nous conduit. Jonas en parlait ce matin. Le Saint-Esprit, ou l'Esprit de vérité, selon l'expression qu'emploie Jésus, le Saint-Esprit œuvre dans nos vies par le moyen de la parole de Dieu, la Bible, dont il se sert, lui, le Saint-Esprit, comme d'une épée. Paul dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Ou plutôt que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. L'Esprit, donc, utilise cette parole comme une épée pour accomplir dans nos vies son œuvre afin de nous rendre de plus en plus conformes à l'image de Jésus. C'est ce que Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Il parle des Juifs ici, et écoutez bien ce qu'il dit, c'est très intéressant. Ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, donc il parle des chrétiens cette fois, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous voyez le rôle indispensable du Saint-Esprit pour la lecture des Écritures, pour la compréhension des Écritures, et cet Esprit, on le reçoit quand on est dans le Seigneur. Le voile est enlevé lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, lorsqu'on est en Christ, le voile disparaît. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut retenir pour conclure? Nous avons besoin de comprendre le monde qui nous entoure et de donner un sens à notre existence. On a dit qu'il y avait deux types de révélations qui nous permettent d'en savoir plus. La révélation générale, qui est utile, mais insuffisante. Et heureusement pour nous, il y a la révélation spéciale, qui est suffisante, mais qui n'est pas exhaustive. La Bible nous adresse un message de la part de Dieu, un message infaillible, un message qui fait autorité dans tous les domaines, un message suffisant pour savoir qui nous sommes, qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Et la Bible pointe vers Jésus-Christ, qui est la révélation de Dieu en personne, et en dehors duquel il est impossible de connaître l'illumination intérieure du Saint-Esprit et d'entrer au bénéfice de son œuvre dans notre vie. Alors, on peut dire, concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Peut-être qu'on doit retenir ces quelques lignes de la confession de foi de Westminster, que j'aime bien. Et je cite, « Le juge suprême, par qui tout débat religieux doit être réglé, par qui toute décision des conciles, toutes opinions des pères, toutes doctrines humaines et toute manière de voir particulière doivent être examinées, et à la décision duquel nous devons nous remettre, donc au début il a dit le juge suprême, c'est le Saint-Esprit parlant par l'Écriture, et nul autre.